Nous avons vu comment Jacob devient Israël dans le deuxième épisode de ce podcast. Mais Jacob n'est pas le seul à voir son nom changé parce que Dieu lui confie une mission. Les noms ont un sens, en particulier dans la Bible, où ils annoncent le programme en quelque sorte d'une vie nouvelle. C'est le thème du quatrième épisode de « Nommer dans la Bible un acte créateur ». Sophie Ramon, sœur de l'Assomption, professeure d'Ancien Testament à l'Institut catholique de Paris où elle est responsable de l'Institut des sciences bibliques, nous parle d'Abraham et de son épouse Sarah.
Ce couple, Abraham et Sarai, vont les deux à la fois changer de nom. Ça, c'est quand même extraordinaire. L'homme et la femme vont changer de nom. Ils ont pour caractéristique, ce couple-là, d'être un couple stérile. Hein. Donc, ils n'ont pas d'enfants. Et de surcroît, il y a l'une ou l'autre aventure où Abraham fait passer Sarai pour sa sœur. En fait, il veut avoir la vie sauve, donc bon, tant pis pour la femme, quoi. Hein, si je peux dire les choses comme ça de manière un peu brutale, mais le récit est assez brutal. Et chaque fois, bon, l'histoire se finit bien. Mais si je vous donne ça, c'est pour vous expliquer un peu le contexte dans lequel arrive donc ce chapitre 17 qui nous raconte leur changement de nom. Et le contexte plus proche donc du changement des noms, c'est le fait que Dieu fasse alliance avec Abraham. Alors ça nous a raconté dans le chapitre 17, donc Dieu apparaît à Abraham, et d'ailleurs il lui dit « C'est moi le Dieu puissant ». Donc là c'est déjà intéressant parce qu'on a la nomination de Dieu par lui-même, hein, Dieu puissant. C'est lui qui mène les événements, c'est pas un Dieu qui se laisse mettre en échec. Hein. Donc c'est un Dieu qui mène les événements, qui mène l'histoire, le Dieu puissant. Et puis il lui dit que donc il va faire alliance avec lui et que sa maison va devenir une multitude de nations. Alors c'est quand même assez étonnant comme annonce quand on sait que le couple est stérile. Hein. Et il lui dit, donc ça c'est au verset 5, « On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham ». Car je te donnerai de devenir le père d'une multitude de nations. » Et donc là, on a une sorte d'explication, si vous voulez, du changement de nom, hein, de Abraham à Abraham, puisque, en fait, c'est un jeu de mots de sonorité qui est, encore une fois, difficile à rendre dans les traductions. Abamon, en hébreu, ça signifie « père d'une multitude ». Donc, en fait, le changement de nom dit ce à quoi Dieu destine Abraham. Il a un nom qui va devenir un nom programmatique.
Et qui traduit sa vocation.
Qui traduit sa vocation. Donc devenir donc un homme béni avec une mission, donc devenir le père d'une multitude. Donc ça, c'est le premier changement de nom dans ce récit.
Ça concerne également donc la femme d'Abraham, voilà. Qui s'appelle, au début du récit, Sarai.
Voilà. Ça, c'est au verset 15, toujours dans le même récit du chapitre 17 de la Genèse. Dieu dit à Abraham... « Tu n'appelleras plus ta femme Sarai, du nom de Sarai, car elle aura pour nom Sarah. Je la bénirai et même je te donnerai par elle un fils. » Alors ça, c'est très intéressant parce qu'elle a un nom qui pourrait se traduire « ma princesse ». Le « aï » final, ça dit en fait un suffixe en hébreu. Donc de « ma princesse », elle devient « princesse ». Et c'est assez intéressant parce que c'est la chute du possessif. Donc elle sera princesse et non plus ta princesse. Ah, vous vous rappelez pourquoi je vous disais que quand même Abraham, il n'a pas toujours été très sympa avec sa femme. Hein, par deux fois, il l'a fait passer pour sa sœur dans le récit de la Genèse. Donc, il a, voilà, et d'une certaine manière, il possède sa femme. Et puis, Abraham, lui aussi, comme on l'a évoqué pour Jacob, il doit apprendre à laisser conduire sa destinée sous la conduite de Dieu. Hein, il veut un fils, il a une femme. Ben non, il doit apprendre à lâcher sa femme, comme il va apprendre à lâcher son fils. Vous connaissez le fameux épisode de la ligature du sacrifice d'Isaac. C'est, voilà, il lui faut apprendre à s'ajuster dans la relation aux autres, dans la relation à ceux qui sont ses plus proches, finalement, hein, sa femme, son fils, les reconnaître comme des dons de Dieu et leur laisser à chacun leur propre personnalité, leur propre ampleur, leur propre vocation.
Dans un contexte culturel où le père de famille, le chef de clan, oui. Est en quelque sorte le propriétaire de son entourage.
Voilà, alors on est effectivement dans des sociétés patriarcales, hein, où le père, l'homme, donc, a le... Oui, c'est le chef.
L'ascendance sur voilà. Sa ou ses femmes et ses enfants.
C'est ça, l'ascendance sur ses femmes, sur ses enfants, l'ascendance sur le... C'est, le texte nous dit aussi qu'Abraham, il prend en main sa destinée, mais il est aussi celui qui a le pouvoir sur sa femme, celui qui veut maîtriser son avenir. Et il faut lui apprendre à accepter l'inattendu, cet inattendu de Dieu, cet inouï de Dieu qui, de temps en temps, peut surgir dans nos vies.
Ça rappelle un peu Jacob quand même. Hein.
Ça rappelle Jacob.
Lâcher quelque chose.
Il y a quelque chose à
renoncer.
Lâcher.
Renoncer.
C'est ça, et reconnaître que c'est Dieu qui conduit nos histoires. Et là aussi, il y a une tradition rabbinique d'ailleurs qui dit que Abraham et Sarah, ils ont tous les deux une lettre nouvelle, qui est en français, donc c'est la lettre H, la lettre Het en hébreu. Et cette tradition nous dit que c'est une des consonnes qui apparaît dans le nom de Dieu. Donc en fait, quelque chose de Dieu s'inscrit dans le nom de ces individus. C'est une tradition qui est assez étonnante, peut-être pour nous, on n'est pas habitué à ce genre de choses, mais en même temps, ça dit quelque chose qui est assez intéressant. Notre nom, c'est le nom qui nous est propre, c'est le nom par lequel nous sommes appelés, c'est ce que nous sommes, c'est qui nous sommes, mais dans ce nom-là doit s'entendre aussi quelque chose de ce Dieu qui accompagne nos histoires.
Et alors, le changement de nom de Abraham et Sarah, qu'est-ce que ça va engendrer dans leur vie? Est-ce que ça inaugure quelque chose de totalement nouveau dans leur trajectoire?
De fait, ils vont avoir un fils. Donc, c'est le cas d'un couple qui est infertile et qui donc va finir par engendrer dans un âge avancé, nous dit le texte. Ce qui est une manière de dire que c'est quand même de l'inouï, hein, de l'inattendu.
Et que rien n'est impossible à Dieu.
Que rien n'est impossible à Dieu. Et ces noms sont annonciateurs de leur destinée, parce que de fait, Abraham, c'est celui par lequel va passer la bénédiction pour toutes les nations. Il va engendrer ce fils qui est tellement attendu. Ce fils, d'ailleurs, dont le nom est associé au rire, parce que Sarah, dans le texte, rit. Ça, c'est dans le chapitre suivant, quand il va lui être annoncé qu'elle va attendre un fils. Elle dit, mais pourrais-je vraiment enfanter, moi qui suis si vieille? Et donc, il dit, si, tu auras un fils, et puis elle va se défendre, parce que là aussi, il y a des mystérieux personnages qui donc viennent annoncer cet enfant, et elle va se défendre en disant, je n'ai pas ri, Isaac va porter dans son nom le rire de Sarah.
De sa mère. Et est-ce que ça change quelque chose dans le couple, entre Sarah et Abraham?
Ça change qu'ils deviennent parents, et qu'ils vont devoir... apprendre non seulement à se respecter l'un et l'autre, à laisser chacun que l'autre puisse vivre en plénitude sans être la possession de l'autre, et ils vont devoir apprendre aussi à lâcher leur fils pour que leur fils ait sa propre destinée. Mais leur histoire est encore faite de tas de méandres qui nous disent bien que cet itinéraire, c'est un itinéraire long, finalement. Un itinéraire long pour accepter de vivre sous la conduite de Dieu et pour accepter aussi de vivre sans posséder les autres ou sans en faire son propre objet. Oui, quelque chose va changer dans leur couple lentement, mais voilà, au fil des événements.
Alors, puisque nous parlons des changements de nom dans les Écritures, Sophie Ramon, on peut faire un saut jusqu'à l'évangile de Matthieu, où là, il est question, dans le Nouveau Testament, bien sûr, de Pierre, qui lui aussi voit son nom changer, enfin, il se voit attribuer le nom de Pierre.
Oui, exactement. Alors ça, c'est dans l'évangile de Matthieu que ça nous est bien raconté, c'est au chapitre 16 de l'évangile de Matthieu, et Jésus donc parcourt la région, il fait des miracles, il nourrit les gens, enfin, il fait tout un tas de choses qui manifestent qui il est. Mais, disons, la reconnaissance de qui est Jésus prend un certain temps. Et on comprend d'ailleurs pourquoi, c'est pas si simple. Et les évangiles nous racontent cela. Et ils nous racontent que Jésus pose la question à ses disciples, au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme? Alors voilà, d'ailleurs, c'est un autre nom finalement de Jésus, le Fils de l'homme. C'est un nom qui dit à la fois que Jésus s'est fait l'un de nous, Il s'est incarné, il est venu habiter parmi nous, il est né de Marie. Et c'est un nom qui dit aussi que Jésus aura une destinée de persécution et de gloire. Hein, parce que ce titre, Fils de l'homme, on le voit apparaître dans le livre de Daniel, donc c'est un livre de l'Ancien Testament, où on voit apparaître comme un fils d'homme qui vient en fait pour le jugement.
Et homme, il faut l'écrire avec un H majuscule là ? Le fils de l'homme ?
Pas nécessairement, parce qu'il y a aussi cette dimension fils de l'humain, tout simplement. Comment ça apparaît par exemple dans le livre d'Ézéchiel, fils d'homme. Donc on pourrait lui donner une double signification dans le texte. Alors qui c'est donc le fils de l'homme ? Pour les uns c'est Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres Jérémie, un des prophètes. Bon. Et finalement, les gens ne savent pas trop qui est Jésus. Et alors là, Jésus pose la question de confiance à ses disciples. Et pour vous, qui suis-je ? Voilà comment Pierre, qui est encore Simon, voilà comment Simon appelle Jésus. Christ est fils du Dieu vivant. Christ, donc c'est lui qui reçoit l'onction, est fils du Dieu vivant. Et alors, c'est une première compréhension de Jésus. Pierre n'est pas encore allé jusqu'au bout tout à fait de la compréhension de Jésus. Il faut attendre d'être à la croix pour que l'identité de Jésus soit complètement dévoilée aux humains. Ah mais quand même, il lui répond, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répond, heureux es-tu Simon, fils de Jonas, donc on le voit là aussi qui est situé. Simon, c'est son nom, le nom qu'il a reçu, le fils de Jonas, donc ça c'est son ascendance. Et puis il lui dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et là, Jésus donne un nouveau nom à Pierre, la pierre, voilà, Pétros, la pierre. Qui est évidemment un jeu de mots. La pierre, voilà, c'est ce qui est sur solide, c'est sur ce avec quoi on bâtit. Et donc, il en fait en quelque sorte le chef des apôtres, à partir de laquelle va pouvoir être bâtie l'église de Jésus.
C'est la fin du quatrième épisode de ce podcast nommé dans la Bible « Un acte créateur ». On se retrouve très vite pour le cinquième épisode intitulé « Je t'ai appelé par ton nom ».